Je voudrais dire bonjour à tout le monde. J'ai une annonce aujourd'hui. Les anciens ont reçu les formulaires d'assistance financière pour la fête. Si vous avez besoin d'assistance financière pour la fête, contactez un ancien. Quand vous avez rempli le formulaire, donnez-le à un ancien. Si vous n'avez pas un ancien proche de vous, donnez-le à l'ancien principal de votre région. Suivez les instructions proprement. Essayez d'être aussi précis que possible. Si vous ne comprenez pas tout ce qui est écrit, contactez un ancien ou un ancien principal. Et maintenant pour le sermon. Je voudrais dire bienvenue à tout le monde dans ce sabbat. Le dernier sermon, on a regardé comment Dieu travaillait avec Moïse alors qu'il se préparait à délivrer un peuple. On a vu comment les gens réagissaient et comment Moïse était obéissant à Dieu. Et on a vu comment ça n'a pas bien été avec Moïse quand il a commencé à faire ce que Dieu lui avait ordonné de faire. Quand Moïse et Aaron sont allés devant le Pharaon, dans la première visite, ça ne s'est pas vraiment bien passé, comme on sait. Il y avait ceux qui n'étaient pas contents avec Moïse et Aaron. Il les avait maltraités. On a vu comment Dieu avait amené les fléaux. Il vivait à travers tous ces fléaux. On voyait comment Dieu commençait à faire une différence et que les gens commençaient à voir cette différence que Dieu commençait à faire après les premiers fléaux particulièrement. Et alors Dieu a commencé à faire voir comment il faisait une différence. Il commençait à avoir un peu plus de foi et il réalisait que Dieu avait vraiment été envoyé par Dieu. Dieu a donné à Moïse un bâton pour le changer en un serpent. Il lui a dit d'aller vers son peuple et il lui a montré de faire ces miracles de Dieu pour prouver qui il était. Dieu avait donné cette capacité de tourner sa main en lèpre. Et Moïse a utilisé ces choses, mais ça n'a pas duré longtemps après qu'il était allé au Pharaon. Et toutes ces choses, il les renvoyait pour les forcer à faire des briques sans la paille. Et là, ces choses ont commencé à changer et commencé à avoir un peu plus de foi. Et on va continuer maintenant sur cette même lancée. On va reprendre où on s'était arrêté et voir les exemples de Moïse et d'Aaron. L'exemple comment Dieu a délivré son peuple. Parce que ces exemples sont donnés à nous et à moi. Pour l'Église de Dieu d'aujourd'hui et qu'on peut apprendre et voir comment Dieu travaille avec son peuple et comment Dieu travaillait avec Moïse et Aaron. Donc on va continuer maintenant. On va ouvrir nos Bibles à 1 Corinthiens 10. On peut voir ce que Dieu faisait. On commence au verset 6. Or, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu.
To the intent that we should not lust after evil things, as they did in ancient Israel.
Verset 7. Ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. On va retourner pour voir de quoi ça parle. Après tout ce qu'ils avaient vu, tous les miracles que Dieu avait fait, on va retourner à voir ce compte-rendu. Verset 8. Ne nous livrons pas à l'inconduite immorale comme certains d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Et notons comment ça a été dit, 23 000 en un seul jour. Je sais qu'il va dire un peu plus tard, c'est 24 000. Il y en avait certains qui sont morts un peu plus tard, donc ça a ajouté au nombre. Mais il dit ici en 23 000 en un seul jour. Donc je parle de ça parce qu'un peu plus tard, il dit 24 000. Donc on va aller retourner dans Nombre 25 et on va voir de quoi ça parle et de voir ce qui s'est passé pour qu'on puisse apprendre de ces exemples. Et Dieu dit qu'il ne soit pas des idolâtres. Israël demeurait à Shittim. Nombre 25 et verset.
Then Israel remained in Acacia Grove, and the people began to commit harlotry with the women of Moab.
Et le peuple se mit à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent les peuples au sacrifice de leur dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur dieu. Vous voyez, quand vous voyez ces exemples, on se demande comment est-ce que quelqu'un puisse faire ça après ce que Dieu avait fait, tout ce qu'ils avaient vécu, tous ces fléaux, et alors que Dieu les avait délivrés de cette captivité. Et là, on voit ce qu'ils font, se tourner vers d'autres dieux. Et on regarde autour de nous. Et on réalise à propos de ceux qui ont abandonné la marche avec Dieu dans l'Église. Et on se demande comment est-ce que quiconque, ils se demandaient même comment quiconque pouvait faire ça, de retourner en Égypte. Mais ça arrive. Et nous, ici, nous voyons les gens se tourner vers d'autres dieux. Et Dieu appelle ça de la prostitution. Ça lui plaît pas quand les gens retournent à ces pratiques. Il y a des frères parmi nous, dans ce temps où nous vivons, chaque jour, qui ont fait partie de l'Église de Dieu pendant des années, et qui chaque année sortaient l'arbre de Noël. Et on se demande comment est-ce qu'ils peuvent faire ça. Et c'est un exemple pour nous tous. À la fin d'un âge. Et c'est pour ça que ça a été écrit. Préservé pour nous et pour moi. Ils ont donc invité les peuples au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Donc Israël s'accoupla avec Baal, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Prends tous les chefs du peuple, fais-les pendre devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. » Donc Moïse dit aux juges d'Israël, « Que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont accouplés à Baal Péor. » Donc, c'était vraiment très, très sérieux, l'offense qui s'était passée, et Dieu n'a pas pris ça à la légère. Après tout ce qu'il avait fait pour eux, et tout ce qu'ils avaient appris sur Dieu, ils étaient rapides de se retourner et de se prosterner devant d'autres dieux, et de les adorer. Et voici que chacun de vous tue ceux des gens qui se sont accouplés à Baal Péor. Et voici qu'un homme des Israélites vint et amena vers ses frères une Médianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute la communauté d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente de la rencontre. À cette vue, Phinéas, fils d'Aléazar, fils de sacrificateur Aaron, il se leva du milieu de la communauté et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël à l'intérieur de sa tente et il les perça tous les deux. L'homme d'Israël ainsi que la femme au bas ventre. Donc il savait ce qu'il faisait. Dieu appelle ça la sexualité immorale. C'est une immoralité spirituelle. Se tourner vers un autre dieu, une autre religion. Et nous voyons ici à quoi ça se réfère.
And those who died in the plague were 24,000.
Et il y en eut 24,000 qui moururent de la plaie. Et l'Éternel parla à Moïse en disant, Phinéas, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les Israélites, parce qu'il a été animé de ma jalousie au milieu d'eux, et je n'ai pas, dans ma jalousie, exterminé les Israélites. C'est pourquoi tu diras que je lui accorde mon alliance de paix. Donc, on peut voir ce que Dieu nous disait dans le 1 Corinthiens 10, et verset 9, ne tentons pas le Christ, le Seigneur, comme le tentèrent certains d'entre eux qui périrent dans le désert par les serpents. Ne murmurez pas comme murmurèrent certains d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. C'est sur ça qu'on veut se concentrer. Donc ces choses leur sont arrivées pour un objectif précis. Elles ont été écrites pour notre éducation. Notez. Ceux pour qui la fin de l'âge est arrivée. C'est pour l'Église de Dieu à la fin. Je veux lire cela d'une autre traduction. Et toutes ces choses sont arrivées pour un exemple. Et c'est un exemple pour nous, aujourd'hui, pour nous avertir de ne pas faire les mêmes choses. Elles ont été écrites pour que nous puissions les lire et apprendre de ces choses que dans ces jours derniers, oui. Ainsi que celui qui croit qu'il se tient fermement soit attentif à moins qu'il tombe. On a juste vu certains qui croyaient qu'ils se tenaient debout et qu'ils résistaient et qui ont quitté l'Église de Dieu. On n'aurait jamais pensé qu'ils seraient tombés. Et ça, on l'a entendu de leur propre bouche. Et comment ils sont maintenant retournés en Égypte. Verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Ça a été écrit pour vous et moi, pour l'Église de Dieu. Et nous sommes l'Église à la fin de cet âge. Allons voir l'Exode. Exode 1 au premier verset. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob. Chacun vint avec sa famille. Et voyez les noms jusqu'au verset 6, que Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Mais les Israélites furent féconds, proliférèrent, se multiplièrent et devinrent de plus en plus puissants. Et verset 8, un nouveau roi vint à régner sur Égypte, lequel n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà le peuple des Israélites qui est plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, de peur qu'il ne se multiplie, car s'il survenait une guerre, il se joindrait à ceux qui nous haïssent pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Alors, on établit sur lui des chefs de corvées afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit pour le pharaon des villes d'approvisionnement Pithom et Ramsès. Mais plus on l'accablait, plus il se multipliait, s'accroissait, et l'on eut de l'aversion pour les Israélites. C'est ce qui arrivait. Donc les Égyptiens assujettirent les Israélites en une servitude rigoureuse. Ils leur rendirent la vie amère par un rude travail avec l'argile et les briques et tout le travail des champs, c'est-à-dire par tout le travail auquel on la servirait avec rigueur. Les Israélites étaient les travailleurs de force. Et on pouvait voir qu'ils avaient des chefs de corvée qui les gardaient sous contrôle. Ils étaient devenus sauts si nombreux qu'ils étaient plus forts que les Égyptiens. Et on connaît cette analogie maintenant. Nous savons que l'Égypte représente le péché. Il y a des leçons spirituelles pour vous et moi, pour comprendre ici. L'Exode était un temps de délivrance pour les Israélites. Et aussi certainement que les Israélites étaient libérés de Dieu, par Dieu. Et Dieu va nous délivrer à la fin d'un âge. Certains vont être délivrés dans un nouvel âge. Et certains vont être délivrés dans les 144 000. Il y aura une délivrance dans le millénaire quand Jésus-Christ va être envoyé de Dieu. On a vu dans ce dernier sermon, on a vu comment Dieu a planifié comment délivrer un peuple. Et ça va être le titre aujourd'hui, comment délivrer un peuple. Tout ce qui est arrivé a été par à propos, not par chance. Pas par la chance. Parce que nous savons à travers les Écritures que le sang n'était pas par chance. Dieu avait un plan pour délivrer un peuple de la captivité. Et quand on regarde à ces choses spirituellement, Dieu a un plan pour nous délivrer de la captivité d'Égypte, ce qui est la représentation du péché, de nous sortir du péché. Et ce plan est en place. Et Satan est une représentation du pharaon. C'est une analogie du pharaon de l'époque. Et on comprend comment la fête des pains sans levain représente sortir du péché. On peut trouver des histoires spirituelles qui peuvent nous aider à comprendre. Dieu dépeint une histoire pour nous et moi, pour vous et moi, dans l'Église de Dieu. Satan n'abandonne jamais. Il est toujours là, attendant, comme dans l'Exode, et toujours à la poursuite, comme il a été à la poursuite des autres, juste avec Pharaon. C'est ce qu'on peut apprendre. On peut apprendre à partir de ces exemples. On peut voir comment Dieu travaille, comment Dieu délivre un peuple. Juste quand les gens ont reçu un choix, nous avons un choix. Lorsque nous sommes appelés, que l'Esprit de Dieu vient en nous, on choisit de suivre Dieu, nous choisissons. Retournons à Hébreux 11. On a parlé de ça dans le dernier sermon. Parce qu'il y a des choix. Quand Dieu ouvre votre esprit, vous pouvez commencer à choisir. En regardant des exemples, et verset 24, c'est par la foi que, devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il choisit, il refusa, plutôt que de souffrir l'affliction, et plutôt que les réjouissances éphémères du péché, il choisit le peuple de Dieu. Vous et moi, nous avons le choix. Comme Ron le dit, vous choisissez. Comment peux-tu ne pas choisir de marcher encore une fois, de continuer, de faire un pas de plus avec le Dieu, grand Dieu de cet univers? Qu'est-ce que ça va vous demander de faire ça? C'est ce que Dieu a écrit dans son livre. Qu'est-ce que ça exigerait quoi? La famille, les amis. Donc nous avons des choix. Verset 26. Il estimait en effet que l'opprobre du Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. On peut voir que Moïse comprenait quand même beaucoup de choses à propos du plan de Dieu Ça lui permettait de comprendre les choses, la récompense, ce que c'était, de se débarrasser du péché complètement, devenir une nouvelle créature, un être spirituel, et de vivre pour toujours. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi, car il tint ferme comme voyant celui qui est invisible. Par la foi, c'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est fait par la foi. Bien sûr que Dieu a fait des miracles pour renforcer Moïse. Il l'a fait physiquement, en lui donnant ce bâton et ce serpent, les miracles qu'il a fait, qu'il lui a donné de faire. Et quand Moïse se tenait devant le rivage, en ne sachant pas vraiment ce qui allait se passer, il a donc touché l'eau avec son bâton, comme Dieu lui avait dit de le faire. Et nous le dit dans le verset 29, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme une terre sèche. Et ils croyaient à Dieu. Ils croyaient, ils savaient que Dieu allait continuer à les conduire et qu'il les avait amenés jusque-là, donc il n'allait pas les abandonner. C'était impossible qu'il n'allait pas continuer à les conduire. Ils allaient les amener jusqu'à la fin du voyage. Toutes les montagnes qui étaient là, il y avait aucun endroit où se retirer. Ils voyaient le pharaon et son armée arriver de derrière. C'est ce que Ron appelle le moment de la mer Rouge. On est coincé. C'était un exemple, parce que c'est par la foi qu'on peut aller de l'avant, comprendre. Nous pouvons voir que la foi a un rôle important dans leur vie. Et ceux dans notre vie qui sont trouvés dans l'Église de Dieu à la fin, c'est par la foi de voir où Dieu va nous conduire. On va savoir. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas ce qui allait se passer quand ils sont allés à travers cette vallée. Et certainement, quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, certainement, ils n'avaient aucune idée de ce que cette mer allait faire. Exode 3, verset 5. Et Exode 3, verset 5. Et il dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, parlant à Moïse, c'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. Et l'Éternel dit, j'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis donc descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, un pays découlant de lait et de miel. Parfois, nous lisons les Écritures sans vraiment prêter attention, sans saisir ce qui est dit. Moïse était projeté dans une vie nouvelle et différente. C'est un peu la même chose pour vous et moi dans l'Église de Dieu. Il y en avait deux sur la scène à la fin d'un âge que le grand Dieu de cet univers avait envoyé pour délivrer son peuple à la fin d'un âge. dans un moment extraordinaire sur cette terre, un moment où le Jésus-Christ allait venir pour régner. Et juste comme le Pharaon était envoyé par Dieu, et Aaron était envoyé de Dieu, et Moïse à leur époque, nous savons l'histoire, comment Moïse a conduit le peuple hors d'Égypte en un temps de délivrance. C'est la même chose dans la fin d'un âge dans l'Église de Dieu. Dieu va délivrer son peuple encore une fois encore à la fin de cet âge. Retournons à Exode 12, verset 28. On s'est arrêté au dernier verset, quand ils ont mis le sang sur les linteaux des portes, selon l'instruction de Dieu. Exode 12, verset 28. On entre dans l'histoire un peu plus en avant. On comprend le résultat de ce qui s'est arrivé. On découvre que les Israéliens firent exactement ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron concernant les instructions pour la Pâque. Donc, c'est un parallèle intéressant pour ceux qui se trouvent à la fin d'un âge ici. Ils ont fait ce qui leur avait été instruit. Sinon, certains seraient morts avec les premiers-nés des Égyptiens. Donc, on a quelques leçons ici, à la fin d'un âge, à apprendre. Exode 12, verset 15. On trouve les instructions ici pour la fête des pains sans levain. Mais ce n'est pas notre intérêt de traverser cela aujourd'hui. Donc allons au verset 31 de l'Exode 12. On voit que les enfants d'Israël se préparent pour leur voyage. Juste comme vous et moi, on se prépare pour notre voyage, se préparant pour le royaume de Dieu à la fin de cet âge. Nous nous préparons pour notre voyage nous nous préparions pour ce voyage dans le millénaire de Jésus-Christ au royaume de Dieu qui va être établi bientôt. Et vous et moi, nous devons être préparés comme ils devaient l'être à l'époque. Et dans notre préparation, Dieu nous donne des exemples précis pour une image d'une préparation spirituelle. C'est l'image de comment vivre, de comment mettre le péché hors de notre vie, comment s'en débarrasser. Et nous voyons aujourd'hui, regardons comment Dieu travailler avec eux à l'époque, comment Dieu a œuvré avec Moïse et Aaron. Donc, prenons maintenant l'histoire au verset 31. Dans la nuit même, le Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les Israélites aussi. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. » Donc, il les avait appelés. Prenez aussi votre petit et votre gros bétail, comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi aussi. Et les Égyptiens pressaient le peuple, ils avaient hâte de laisser partir du pays, car ils disaient, notez ça, nous périssons tous. Donc le peuple emporta sa pâte avant qu'elle soit levée, leur pétrin étant enveloppé dans leurs vêtements et leurs épaules. On voyait comment les Israéliens apprenaient à suivre les instructions que Dieu leur avait données à Aaron et à Moïse. Verset 35, les Israélites firent ce que Moïse avait dit. C'était pas comme ça au début, si vous vous souvenez. Quand on se souvient comment Moïse est allé vers Pharaon au début, que les choses ne se sont pas passées comme prévu, vraiment. Mais alors maintenant, on découvre une différence. Il y a une différence qui avait été faite. Ils avaient vu comment Dieu travaillait, œuvrait à travers Moïse. Mais ça a été un processus qu'ils ont traversé, qu'ils ont vécu. Comme on s'est souvenu, ils traversaient les fléaux, sont arrivés à la Pâque, et on découvre qu'ils suivaient les instructions qui leur avaient été données, de mettre le sang sur les portes. Dans le verset 35, dès que les Israélites firent ce que Moïse avait dit, et ils demandaient aux Égyptiens des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements, ce que Dieu avait dit à Aaron et à Moïse de faire, ce qui allait arriver. Ça a pris du temps. C'était pas vraiment la manière dont tout le monde espérait que ça allait arriver. Mais nous voici. Dieu ne peut pas mentir, et nous voyons qu'ils allaient être délivrés comme Dieu avait dit que ça allait arriver. Et vous devez noter ce qu'ils font. Ils demandaient aux Égyptiens des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements, juste comme Dieu leur avait dit. Et l'Éternel fit en sorte que le peuple obtienne la faveur des Égyptiens, juste ce que Dieu avait dit, exactement. Il disait que ceci arriverait. Et c'est arrivé. Donc ils se rendirent à leur demande et ils enlevèrent cela aux Égyptiens, exactement comme eux. Et les Israélites partirent de Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Tout un ramassis de gens monta avec eux aussi. Ils avaient un cheptel considérable de petits et de gros bétail. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec de la pâte qu'ils avaient emportés d'Égypte et qui n'étaient pas levés, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir s'attarder, sans avoir fait de provisions pour eux. Ça tout est fait en hâte. Il n'y avait pas eu beaucoup de temps pour se préparer. Il nous dit dans le verset 40 combien de temps ils étaient là. Le séjour que les Israélites firent en Égypte fut de 430 ans. Au bout de 430 ans, ce jour précis, toutes les troupes de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte en ce jour même. Et notez le verset 42. Ce fut une nuit de veille en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. C'est cette nuit de veille en l'honneur de l'Éternel pour tous les Israélites dans chaque génération. La leçon spirituelle que nous devons apprendre de ces choses qui ont été données à l'Israël ancienne, mais il y a une application spirituelle pour nous à la fin de cet âge. Exode 13, verset 3. Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par la puissance de sa main que l'Éternel vous en a fait sortir. » On peut appliquer ces choses à nos vies quand Dieu ouvre notre esprit, notre pensée et nous dit, de sortir d'Égypte, de sortir du péché et de se concentrer sur lui, de sa manière de vivre, d'un nouvel mode de vie, d'enterrer l'homme ancien et de vivre une nouvelle vie. Et la plupart d'entre nous, on se souvient comment Dieu nous a délivrés et sortis de ce monde, et c'était un moment de délivrance exactement de la même façon. C'est une autre délivrance qui est arrivée. C'était par la puissance de Dieu que vous et moi, nous sommes sortis de ce monde. C'est comme ça qu'il a sorti les enfants d'Israël de la servitude. Il nous a sortis de la servitude. Il faut réfléchir sur ces choses. C'est la puissance de Dieu qui va continuer à nous faire avancer jusqu'au moment de la grande délivrance. Tournez vos Bibles, verset, psaume 106. Nous connaissons l'histoire d'Israël et comment ils ont oublié leur Dieu et oublié comment Dieu les avait délivrés. Et ils continuaient de faire cela.
Le
psaume 106, verset 9, nous dit l'histoire, décrit l'histoire. Il menaça la mer des joncs, se dessécha et il les fit marcher à travers les abîmes. Oups. Après ce qu'ils avaient vu, tout ce que Dieu avait fait pour eux, ça n'a pas pris longtemps. Et Moïse était sur la montagne. Dieu lui donnait les 10 commandements, comme on sait. Verset 20. Ils changèrent leur gloire en la figure d'un bœuf qui mange de l'herbe. Incroyable. Qu'on peut faire la même chose. C'est l'ironie de toutes ces choses. Ça peut nous arriver. Mais quand on a été illuminé, c'est pire que ce qu'ils ont fait. Je ne pense pas qu'on puisse saisir ces choses. Mais c'est la vérité. Verset 21, ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte. Des miracles dans le pays de Cham, des œuvres redoutables dans le pays des joncs. Après tout ce qu'ils avaient vu, ils étaient rapides d'oublier. Verset 24, ils méprisèrent un pays enviable. Ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel. Ils n'étaient pas contents. Ils avaient oublié ce que Dieu avait fait et dit. Ils murmurèrent dans leur tente. Ils se plaignèrent. Ils n'obéirent pas à la voix de l'Éternel. Et il décrit ce qui est arrivé. Cette nature humaine, décrivant comment on est, comment la pensée est trompeuse au-delà de toute chose. Verset 7, psaume 106, j'espère, frère, que nous voyons l'avertissement et comment Dieu nous a appelés à sortir de ce monde. Il nous a sortis des ténèbres et a illuminé notre pensée, notre... J'espère que vous saisissez le genre de miracle, si vous le voyez. J'espère que vous n'oublierez jamais ce qui vous est arrivé. Mais je sais que certains l'oublieront. Certains ne se soumettront pas à ces exemples qui ont été écrits pour nous et moi. Ils vont oublier ce que Dieu a fait pour eux, qu'il a ouvert leur esprit, leur pensée à la vérité, et leur a montré le plan merveilleux de Dieu. Ça va continuer d'arriver jusqu'à la fin de cet âge. Je sais que ça va continuer d'arriver. Psaume 106, nos pères en Égypte n'ont pas discerné tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas les multitudes de tes actes bienveillants. Et Dieu a fait ça de manière répétée, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la mer Rouge. Ils ne voyaient plus comment s'échapper, coincés à la mer, avec l'armée qui arrivait derrière eux. Ils regardaient autour, il n'y avait que des montagnes. Et le pharaon arrive avec toute son armée, juste derrière eux. C'est un exemple pour vous et pour moi. Il faut faire très attention comment Dieu nous conduit. Ils ne voyaient pas absolument aucun moyen d'échapper. Ils pensaient que c'était la fin. Si nous ne faisons pas attention, nous pouvons tomber dans ce même état d'esprit, penser que Dieu nous a conduits aussi loin qu'il pouvait et que c'est la fin. Notre pensée peut nous faire penser que après la Pentecôte, ça y est, c'est la fin. Il n'y a plus rien après.
It's just not going to happen.
Rien ne va arriver. Tout ce qui était promis. Donc ils étaient à la mer Rouge. Nulle part où aller, pas un seul pas à faire. Plus rien à faire, coincé. Et quand Dieu révèle son action prochaine, quelle a été votre réaction quand la Pentecôte est arrivée? Donc, faire attention, faites attention, apprenez à partir du passé. Est-ce que Dieu ne les a pas conduits encore, même s'ils ne pouvaient pas prendre un autre pas? La rébellion est un état d'esprit qui est très dangereux. Moïse avait la foi en Dieu. Est-ce que nous l'avons? Ça prendra de la foi. Ça réclame de la foi d'accomplir les mêmes choses de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Verset 8. Mais il les sauva, bien qu'il les sauva à cause de son nom, pour faire connaître sa puissance. Je peux vous assurer, mes frères, que le plan de Dieu va continuer et que Dieu va délivrer un peuple dans le millénaire. Et il y aura un témoignage de son grand pouvoir et de sa puissance à la fin d'un âge, juste comme c'est arrivé dans l'Exode. Il y aura un moment, une chose extraordinaire d'être amené dans l'âge du millénaire de Jésus-Christ et de voir et d'expérience la puissance de notre Dieu. Verset 9. Ils se tenaient devant la mer, ils ne pensaient pas qu'ils pouvaient faire un pas de plus. Et dès qu'ils se sont rebellés à la mer Rouge, ils ne pensaient pas que Dieu allait les délivrer, n'allait plus rien faire pour eux. Un état d'esprit dangereux. Verset 9, on découvre, il menaça la mer des joncs et elle se dessécha. Donc il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert. C'est écrit comme ça, à travers le désert. Il les sauva de la main de ceux qui les haïssaient. Ça va être la même chose à la fin d'un âge. Satan vous déteste, vous et moi et l'Église de Dieu. Et ça doit être Dieu qui doit nous délivrer. Il déteste ce que Dieu est en train de faire. Il déteste ce que Dieu nous a donné. Vous pouvez faire ce qu'ils ont fait devant la mer Rouge, vous pouvez vous rebeller, c'est très facile. Et il les racheta de la main de l'ennemi. Les eaux couvrirent l'adversaire. Il fait la même chose avec son Église. Il nous rachète de la main de notre ennemi, notre adversaire, celui qui essaie de détruire le plan de Dieu. Dieu les a délivrés de leur ennemi. Et les eaux couvrèrent leur adversaire. Donc quand Dieu nous délivre, l'Église de Dieu, Satan et les démons vont être enfermés pour 1000 ans. Notez le verset 12. Alors ils crurent à ses paroles. Quand ils virent l'eau qui couvrait leur ennemi, ils ont chanté leur louange, sa louange. Et cette chanson aussi va se répéter à la fin de cet âge. Il y aura des grincements de dents et des pleurs. Quand ils réalisent qu'ils ne pouvaient pas faire un pas de plus, Verset 13. Mais ils se hâtèrent d'oublier ses œuvres. Ça prend pas beaucoup de temps. C'est comme si tu poussais un bouton. Encore et encore. C'est comme les changements de corps. Parce que c'est plus la même personne tout à coup. Ils ne le savent pas, ils ne réalisent pas ça, mais nous le savons. Regardez la dernière partie du verset 13. Ils n'attendirent pas l'exécution de son dessein. Mais dans le désert, ils furent remplis de convoitises. Donc, il y en a certains qui ont des expériences du passé, comment Dieu a conduit son Église. Certains n'ont pas attendu Dieu. Quand Dieu fait une action, ça devient très clair. Mais il y a toujours ceux qui ne peuvent pas attendre. Ils veulent savoir plus que ce que Dieu nous donne. C'est comme se tenir devant la mer Rouge. Ils peuvent tout simplement pas voir comment est-ce qu'on peut avancer. Ils utilisent les raisonnements humains. C'est ce qu'ils font réellement. Comment on processe le processus dans notre tête. Psaume 78 et verset 11. On rejoint l'histoire. On voit des réactions là encore. Et j'espère qu'on peut apprendre à partir de cela. Verset 11, c'est la même histoire. Dieu a pratiqué toutes ses merveilles, ses miracles. Quelqu'un qui quitte l'église de Dieu, c'est exactement ce qui se passe. Ils oublient ce que Dieu leur a montré. Les 57 vérités. Comment pouvez-vous vraiment retourner en Égypte? Mais ils le font. Ils oublient comment ils étaient appelés. Verset 12. Devant leur père, il avait fait des miracles au pays d'Égypte, dans la campagne de Tsoar. Il fendit la mer et les fit traverser. Il fit dresser les eaux en une masse. Tu peux imaginer ça? C'est que la plupart d'entre nous, nous avons vu des miracles. Le film, les 10 commandements, ils ont fait un bon travail, Hollywood, à cette époque. Ils ont fait en sorte que les eaux se tenaient debout, comme ça, des effets.
Il
dit que dans... Il les conduit par le jour dans les nuées, et toute la nuit, à la lumière d'un feu, il fendit les rochers dans le désert, et leur donna à boire des flots abondants. Et du roc, il fit sortir des ruissellements et descendre des eaux comme des fleuves. Mais ils continuèrent à prêcher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert aride, et c'est constamment comme ça. Et ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leur désir. Ils parlent contre Dieu. Ils disent, Dieu pourra-t-il dresser une table dans le désert pour nous? Voici qu'il a frappé le rocher, des eaux ont afflué et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? Oui, l'Éternel entendu et fut en courroux. Donc un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël parce qu'ils ne croyaient pas en Dieu, parce qu'ils n'avaient pas confiance en son salut. Il donna des ordres aux nuages d'en haut, il ouvrit les portes du ciel, il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture, il leur donna du blé du ciel, chacun eut à manger du pain des grands, il leur envoya de la nourriture à satiété. Donc mes frères,
that will take death at the end of an age for some.
Ça va être difficile pour certains à la fin d'un âge. Il y aura des doutes. Ceux qui ont des doutes à certains moments, quand les choses arrivent, et ça va arriver. Verset 34, la dernière partie. Ils revenaient et cherchaient Dieu. C'est quand ils ont vu cela. Alors ils le virent. C'est la leçon ici, même avec l'esprit de Dieu à la fin d'un âge. Ce que ça fait même avec l'Esprit de Dieu, c'est donc un exemple pour tous à le voir. Ce que nous avons fait, alors que nous sommes traversés la période de Laodicée, l'histoire de Laodicée va être racontée pendant un millier d'années, même avec l'Esprit de Dieu, ce que nous avons fait. Verset 38, mais lui, Dieu qui est compassion, faisait l'expiation de la fêlure et ne détruisait pas, il multipliait les occasions de retenir sa colère et n'éveillait pas toute sa fureur. Il n'a pas dit combien de fois. Ça révèle qui nous sommes dans notre tête et la miséricorde de Dieu. Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert, verset 40, que de fois ils l'attristèrent dans la solitude. Ils recommencèrent à tenter Dieu, à provoquer le Saint d'Israël. Ils ne se souvinrent pas de sa puissance, ni du jour où il les avait libérés de l'adversaire, ni de ses signes qu'il avait fait paraître en Égypte, ni des prodiges dans la campagne de Tsoan. Il changea les bras de leur Nil en sang, et ils ne purent en boire les ruissellements. Et tout le chapitre du psaume 78 décrit cela, et c'est un avertissement à tous ceux qui suivent Dieu à la fin d'un âge, et ils continuèrent d'oublier. Il faut qu'on apprenne de ces choses, de leur exemple. Nous avons besoin de toujours nous souvenir comment nous avons été délivrés de la servitude de ce monde, de l'esclavage. Nous avons besoin de ne jamais oublier comment Dieu nous a dit de sortir de ce monde du péché, d'une vie sans péché, d'embrasser une vie sans péché, de nous préparer pour le royaume de Dieu. Tournons notre Bible maintenant à Colossiens, chapitre 1. L'Exodus est un exemple pour vous et moi. Sur qui la fin de l'âge est arrivée. Nous devons prendre à cœur ces leçons qui nous tirons de la parole de Dieu qui ont été données à vous et à moi. Et nous devons apprendre ce que nous voyons dans notre vie spirituelle, que nous puissions vivre nos vies vraiment pour le royaume de Dieu qui vient sur cette terre. Et dans le verset 9, Colossiens 1, c'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de vous demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. C'est pour ça que vous êtes ici. C'est pourquoi nous avons le sabbat et les jours saints pour être remplis de la volonté de Dieu, pour être de son plan et de recevoir la compréhension spirituelle de ce qui se passe, de comment Dieu délivre l'humanité. Verset 10 nous dit « Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croyez et croissez dans la connaissance de Dieu. » C'est pourquoi on est ici, qu'on puisse apprendre et accroître et grandir dans la connaissance du plan de Dieu et de sa connaissance. Devenez puissant à tout égard par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérant et patient. Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés. C'est ce qu'il a fait. Il a ouvert votre pensée. Il vous a sorti des ténèbres. Il vous a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé, si nous ne nous détournons pas. En qui nous avons la rédemption par le péché, le pardon des péchés. Jésus-Christ, il est devenu la Pâque, il a payé le pénalité, que nous puissions être délivrés de la puissance du péché. Jésus-Christ a accompli la Pâque qui a été accomplie par la nation d'Israël, le pardon des péchés, le sacrifice qu'il a fait. Verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos péchés et par vos œuvres mauvaises, vous avez été délivrés du monde de Satan.
From the captivity onto the path toward the promised kingdom of God. That's where we're headed.
And you, et vous qui étiez autrefois étrangers, notez ça, ennemis par vos pensées. C'est une bonne explication de ce qu'on était, parce que nous étions ennemis par nos pensées. Et donc, bien que nous comprenions que c'est la bataille qui a lieu dans votre pensée, c'est vraiment là où la bataille a lieu. Et vous et moi, nous devrions apprendre à propos des réactions que nous avons vues, apprendre des choses de notre vie, de ne pas être un ennemi de Dieu dans notre pensée, se souvenir toujours ce que l'apôtre Paul disait, « Oh, misérable homme que je suis, dans ma tête je veux servir Dieu. » C'est comme ça que c'est. Et vous qui étiez autrefois étranchés et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, c'est ce que ça amène. Et nous, on a tous fait partie de cela parce que Dieu nous a sortis de cela. Et il vous a maintenant réconcilié par la mort dans le corps de sa chair. Notez. Pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Si vraiment vous demeurez dans la foi, c'est ça qu'il dit. Si vraiment vous continuez, demeurez dans la foi, fondé et établi, inébranlable. Comment Dieu nous a conduits. Et vous demeurez inébranlable avec est-ce que votre foi a été ébranlée et ne pas être emporté loin de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu un servant. En d'autres termes, est-ce que vous avez jamais douté ce que Dieu dit? Est-ce que vous le doutez maintenant? Qu'est-ce que sera la prochaine mer rouge? S'il y a une autre mer rouge? Donc allons maintenant au deuxième livre de Pierre, chapitre 1 et verset 2. Voir ce qui est dit. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui nous contribue à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données. Vous croyez cela? Est-ce que vous croyez que nous sommes délivrés? Vous croyez que Dieu conduit son Église dans le millénaire, le règne de Jésus-Christ? Vous croyez et comprenez ce que Dieu vous a offert? J'espère que vous comprenez. Dieu vous appelle à la fin de cet âge pour vous préparer au règne millénaire et l'arrivée des 144 000. D'une manière ou d'une autre, j'espère que vous comprenez. Verset 4, « Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elles, vous deveniez participants, notez, de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » C'est ce qu'on a échappé. C'est pas compliqué. Juste obéis Dieu et crois Dieu. Et vous échapperez à toute la convoitise du monde. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la connaissance. C'est pour ça que vous êtes ici. Pour ajouter à votre connaissance de ce Dieu de l'univers la maîtrise de soi-même, à la connaissance. Et à la maîtrise de soi-même, la persévérance, et à la persévérance, la piété. À la piété, la fraternité, et la fraternité, l'amour. En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, notez bien, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. La connaissance dont vous avez besoin sera là. Verset 9. C'est un avertissement. Mais celui qui ne les possède pas est aveugle. Il a les yeux fermés. C'est très clair. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Comme les anciens d'Israël. C'est un avertissement. C'est donné à nous tous comme un exemple. Verset 10. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne broncherez jamais, vous ne tomberez jamais. Car c'est ainsi que vous sera largement accordée l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce qui vous avait été offert à ceux qui ont été appelés, juste de voir Jésus-Christ revenant sur cette terre, juste de voir ça en lui-même, en soi-même, ne pensons même pas à ce qui va se passer après, de voir ces choses transformées, le changement, ce que Dieu peut amener, les 144 000 des êtres d'esprit sur cette terre, et ça, il peut l'accomplir. Donc, nous avons besoin d'écouter ces avertissements, ces leçons, et d'apprendre à propos de ces exemples. Nous avons besoin de nous concentrer sur les exemples et les miracles qui ont été accomplis, même dans notre propre vie, dans ce que Dieu a fait dans nos vies, de nous délivrer du monde de Satan. C'est un miracle que nous soyons assis ici. Écoutant ces mots, écoutant ces paroles, c'est un miracle de Dieu que nous soyons assis, que nous pouvons entendre ces choses. Ces écritures ont été écrites à Pierre qui était sur le point de mourir. Il savait qu'il allait mourir. Il y a beaucoup de gens qui avaient des problèmes avec la façon dont Dieu travaille dans leur vie. Verset 12, nous trouvons ce que Pierre dit. Voilà pourquoi je vais toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Donc, Pierre comprenait comment travaille Dieu œuvrait. Et il savait comment Dieu révèle la vérité. C'était progressif. Et c'est comme ça que nous recevons la vérité présente aujourd'hui, d'une lettre à une autre. Et donc, pratiquement sur la base d'une lettre pratiquement toutes les semaines maintenant, par Ron. Et donc, c'est aussi discuté dans le sabbat et pendant les jours saints. Et ça n'a pas changé. Regardons comment Pierre dit ces choses, et j'aime bien ça. Et ça c'est prêt. La vérité présente, et c'est dans quoi nous sommes aujourd'hui. Nous sommes dans la vérité présente. Et nous comprenons comment Dieu nous a conduits. Nous comprenons que nous sommes dans une guerre spirituelle avec un adversaire de grande, grande puissance, tellement de puissance que nous ne pouvons pas comprendre. Et quand Dieu nous amène vers la terre, nous suivons Dieu là où il nous conduit. Et notre réaction peut nous coûter notre vie spirituelle, juste comme c'est arrivé. On perdu leur vie physique, ceux dont nous venons juste d'entendre parler, à cause de leur abandon et de leur détour, d'avoir abandonné le Dieu de cet univers. Ils ont perdu leur vie physique. Les leçons, elles ont beaucoup de valeur si nous les suivons, si nous les appliquons dans nos vies. En dépit de tous les miracles qu'ils avaient vus, ils avaient oublié ce que Dieu avait fait. Que dire de ceux qui sont vivants aujourd'hui, à ce moment, dans le plan de Dieu, aujourd'hui? Est-ce qu'on croit que Dieu va faire ça, va conduire son Église dans le règne millénaire de Jésus-Christ? Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on a oublié qui et comment est conduit l'Église de Dieu? Allons maintenant à Matthieu 16 et verset 4. Et ils lui demandèrent s'il pouvait leur montrer un signe du ciel. Et il répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. » Hypocrite. Jésus les appelait comme ils étaient. Il connaissait leurs pensées. Il savait qui ils étaient. Et il ne pouvait pas mâcher ses paroles. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Quand nous regardons aujourd'hui à ce monde, nous regardons les conditions dans lesquelles le monde est et vers quoi ça va. Si vous ne pouvez pas voir vers l'horizon et discerner les temps où nous sommes, vous avez des problèmes, mes frères. Verset Les disciples, en partant pour l'autre rive, avaient oublié de prendre des pains. Et Jésus leur dit, « Gardez-vous attentivement du levain des pharisiens et des sadducéens. » Et les disciples raisonnaient en eux-mêmes, disant, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » C'était leur question. Et ça, c'est la raison. Et notez ce que Jésus répond. Le verset 8 dit que Jésus se rendait compte de ce qu'il pensait. Il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi ?» Parce que vous n'avez pas pris de pain, c'est pour cela. Après qu'ils avaient vu tout ce que Jésus avait fait avec les pains, la multiplication, Jésus l'appela exactement comme ce qu'il voyait, « Vous de peu de foi ». Notez ce qu'il dit. Vous ne saisissez pas encore. On peut se demander cette même chose. Ne saisissons-nous pas encore en nous-mêmes qui Dieu est, qui est Jésus-Christ? Ne saisissons-nous pas encore qui conduit cette Église? Et il leur rappelait, vous souvenez des 5 pains et des 5 000, et combien de corbeilles vous avez emportées? Vous ne saisissez pas ces choses, ne vous souvenez-vous pas de ces choses? Et combien de paniers vous avez gardés? Comment ne saisissez-vous pas que ce n'est pas des pains que je vous ai parlé, mais gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens? Alors ils comprirent qu'il avait dit de se garder non pas du levain du pain, mais de l'enseignement. Notez, l'enseignement, les doctrines des pharisiens et des sadducéens. Et quand vous sortez de l'Église de Dieu, vous tournez le dos à l'Église de Dieu et à l'enseignement de l'Église. Jésus devait leur rappeler où était la vérité. Et notez le verset 13. Jésus arrivait sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Qui les gens disent que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Et ils répondirent, les uns disent Jean le Baptiste, d'autres Élie, et d'autres disent Jérémie ou l'un des prophètes. Verset 15, il dit, mais vous, notez, ça devrait être la même question pour vous que nous posions. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Ils savaient ce que les autres disaient. Mais il devint très spécifique avec Pierre, avec ses apôtres. Pierre lui répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Remarquez comment Jésus répond. Parce que la seule manière de connaître ces choses, c'est la seule façon que tu peux savoir qui conduit cette Église. Tu es bienheureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. C'est la même chose aujourd'hui, mes frères. C'est exactement la même chose aujourd'hui, comme ça a été écrit. C'est le grand Dieu de cet univers qui vous a appelé et qui vous a révélé sa vérité. Et ça n'a pas changé. La chair et le sang ne t'ont pas révélé ces choses. Seul par Dieu le Père, ces choses peuvent être révélées par Jésus-Christ. Allons au premier livre des Corinthiens, chapitre 5. Et regardons un autre exemple. On devrait savoir où est la vérité. On devrait savoir où est Dieu. Et si nous savons ces choses, nous savons qui conduit son Église. Corinthiens 1, Corinthiens 5, verset 6. C'est un exemple. Dieu conduisant son Église est certain qu'ils ne sont plus d'accord avec cela. Quand quelqu'un a oublié que Dieu conduit son Église, regardez ce qu'il dit, remarquez l'Écriture.
Verset 6.
Il n'est pas beau, votre sujet de gloire, ne savez-vous pas qu'un peu de pain fait lever toute la pâte? C'est l'instruction de Dieu. Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, mais avec un levain de perfidie et de méchanceté, mais avec des pains sans levain de sincérité et de vérité. Et verset 9, on découvre... Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. C'est pourquoi nous gardons séparés du monde, de ce monde, des choses qui peuvent nous attirer et nous séduire. Ça peut être utilisé sur un niveau spirituel. Ils vivent, les gens vivent des choses immorales envers Dieu. Verset 10, ce n'est pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde ou avec les cupides et les accapareurs ou avec les idolâtres. Autrement, vous devriez sortir du monde. Verset 11, on découvre ce qu'il veut dire. Il parle à l'Église, l'Église de Dieu. Maintenant, ce que je vous ai écrit, ce n'est pas d'avoir des relations avec quelqu'un qui, tout en se nommant frère, et voilà, on parle des frères de l'Église, notez, il parle de ceux qui sont dans l'Église de Dieu, qui serait débauché ou cupide, ou idolâtre, ou insulteur, ou ivrogne, ou accaparateur, et même de ne pas manger avec un tel homme. On peut voir qu'il y a des leçons que nous devons continuer à apprendre, apprendre le plan de Dieu. 2 Corinthiens 5 et verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est un voyage continuel d'apprentissage vers le royaume de Dieu, mes frères. Et c'est pratiquement toujours vraiment très passionnant, en continuellement apprenant les choses de Dieu. Dans l'Église de Dieu, j'ai été depuis longtemps. Je continue d'apprendre. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. Et on devrait être un exemple au monde et envers l'un l'autre. Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu.
Turn over to Hebrews 12.
Allons maintenant à Hébreux 12 et verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'un si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons. Et ce péché nous piège très facilement. Et quoi qu'il arrive, il faut qu'on s'en occupe et il faut le faire rapidement. Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. On est juste au point d'arriver à la ligne d'arrivée. C'est pas loin. La délivrance est à portée de main. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur et la foi, l'auteur de la foi, et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui nous a été proposée, il a supporté la croix, cette souffrance qu'il a supportée, méprisant la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Les Écritures nous disent que Jésus a souffert ces choses, décrit sa douleur, tout ce qu'il a souffert, tout ce qu'il a vécu, et toute la crucifixion. Je ne pense pas qu'on puisse pas vraiment comprendre l'intensité de ce qu'il a vécu. On sait qu'il a été impossible de le reconnaître après qu'il ait souffert. Il a souffert pour nos péchés, pour vous et moi, et pour tout le monde entier, pour qu'il soit sauvé. Nous avons juste, vous et moi, besoin de considérer ces choses. Considérer ces choses, considérez-le, celui qui a souffert une telle opposition de la part des pécheurs. Il faut penser à ces choses. Le monde protestant qui décrit une image malade, complètement tordue, et nous connaissons les Écritures et la genre de souffrance qu'il a dû vivre. C'était pas juste quelques gouttes de sang, et son sang a réellement été versé par cette lance qui a pénétré son côté et qui a versé le sang sur le sol. Nous, on a besoin de considérer Jésus qui a souffert et qui a enduré tant d'opposition contre lui-même jusqu'au sang. Et si vous ne le faites pas, il dit, vous pouvez devenir découragé et fatigué. On peut penser parfois qu'on a la vie un peu difficile. On peut considérer ceux qui sont allés avant nous. On n'a pas eu besoin de traverser ce désert. On n'a pas eu besoin de se tenir devant la mer Rouge de cette manière. Le verset 4 nous dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. On n'a aucune compréhension de ces choses, ce qu'elles étaient, de résister jusqu'au sang en combattant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils, comme les anciens d'Israël. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime et frappe de verge tout fils qu'il agrée. Supporter la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils que le Père ne corrige pas? Mais si vous êtes exempt de la correction à laquelle tous ont part, alors vous êtes des bâtards et non des fils. En d'autres termes, il faut prendre la correction. Comme il le dit, Dieu corrige ce qu'il aime. Il utilise ce bâton pour corriger notre course, notre trajectoire. Et donc parfois on oublie notre adversaire qui est comme un lion rugissant qui attend le prochain mouvement de Dieu. Verset 9. Puisque nous avons eu des pères selon la chair qui nous ont corrigés et que nous l'avons respecté, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des Esprits pour avoir la vie? En d'autres termes, si nous ne le faisons pas, qu'est-ce que ça fait de nous? Car nos pères, en effet, nous corrigeaient pour peu de temps, comme ils jugeaient bon. Remarquez, mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt, afin que nous faire participer à sa sainteté. C'est une chose extraordinaire qui nous a été donnée. Toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. C'est un processus d'entraînement, de formation. Et Dieu a négocié avec Moïse et Aaron, avec la nation d'Israël, de la même manière. C'est un processus de formation Et Dieu l'a organisé de la même façon pour nous à la fin de cet âge. Et c'est une formation. Dieu nous dit de redresser les mains abattues et les genoux paralysés. Que vos pieds suivent des pistes droites. Vivez, en d'autres termes, de la façon dont Dieu vous dit de vivre. De la manière dont Dieu nous enseigne. Afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. 2 Corinthiens 6 et verset 16.
And what agreement is the temple of God with idols?
Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, dit l'Éternel. Ne touchez pas ce qui est impur. Et moi, je vous accueillerai. Je vous recevrai. Je serai pour vous un père et vous recevrez pour moi des filles et des fils, dit le Seigneur Tout-Puissant. Verset 7, chapitre 7 et verset 1. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. Ça parle de l'œuvre du péché et comment est-ce que nous devrions être nettoyés, purifiés, nous purifier nous-mêmes. Le péché peut si facilement nous piéger. Tournons à Colossiens 3 et verset 5, quelques pages plus tard. Et ça adresse donc ici le péché.
Il
nous dit de mettre à mort les choses qui causent le péché en nous, de s'en débarrasser. Et de se débarrasser, de repousser le péché, de le mettre loin de nous. Faites donc mourir votre nature terrestre. l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles, parce qu'ils ne vivent pas à la manière de Dieu. Ça a vraiment beaucoup dégénéré. Quand on regarde autour de nous, c'est difficile de trouver quelqu'un de propre et clean et pur autour de nous. Verset 7 nous dit, « Vous marchiez ainsi autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés, chacun de nous et tous les autres. » Et nous faisions partie de ce système, le système de Satan, on y participait. Nous y participions tous. Verset 8. Mais maintenant, vous aussi rejetez tout cela, colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vu qui avait dépouillé la vieille nature avec ses pratiques. Après qu'on a été baptisé, en d'autres termes, on devrait s'efforcer de nous débarrasser de toutes ces choses. Et revêtu la nouvelle nature qui se renouvelle en vue d'une pleine reconnaissance, et de sabbat après sabbat, on la renouvelle de la manière de Dieu, le mode de vie de Dieu, et on est ici aujourd'hui regardons les choses à propos de Dieu et de la Pâque, et on essaie de changer nos vies. Verset 12. Ainsi donc, comme les élus de Dieu, regardez ce qui est dit à la lumière de Dieu. Saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Vous ne devez avoir envers l'un et l'autre rien de négatif. Personne n'a le droit d'être offensé contre quiconque, et particulièrement contre notre frère ou une sœur. Vous n'avez pas droit à cela. C'est même pas une option. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre contre le Christ, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. C'est pas une option. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, laissez Dieu vous amener vers la paix. Il fait ça en nous enseignant sabbat après sabbat et en étant obéissant, de nous corriger et de nous enseigner à vivre les uns avec les autres. Et il dit d'être reconnaissant. Sommes-nous reconnaissants de ce que Dieu nous a donné? Quand nous sommes à la mer Rouge, comment est-ce qu'on voit ça? Est-ce qu'on accepte ça comme ayant trouvé un trésor dans un champ? Quelque chose de très plein de valeur. C'est comme ça que Dieu dit que nous devons le traiter. Verset 16. Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous, avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantant sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à Dieu le Père. Et toute chose, mes frères, nous devrions être reconnaissants. Pour le privilège de connaître les voies de Dieu, pour la vérité, reconnaissant juste de savoir où Dieu et Jésus-Christ sont. De voir, d'être reconnaissant, de savoir qu'il y en a deux qui ont été envoyés à la fin de cet âge. Reconnaissant de savoir le plan de Dieu. Reconnaissant de savoir que nous serons délivrés. Mes frères, nous avons vu comment Dieu a travaillé avec Moïse. Nous avons regardé à la façon dont Dieu a travaillé avec son peuple au temps de Moïse et comment il a œuvré à travers tous ces fléaux, comment ils ont été délivrés jusqu'à à cette époque. Et Dieu nous a fait savoir à son Église aujourd'hui comment nous allons être délivrés à la fin d'un âge dans le royaume de Jésus-Christ sur cette terre. Il faut que nous écoutions et prêtons attention à ces exemples qui nous ont été donnés de manière à ce que notre délivrance soit sûre quand Dieu passe à l'action pour délivrer son Église. Il faut nous payer attention à ces exemples qui ont été donnés, qui nous ont été donnés, à qui la fin de cet âge est arrivée. On a regardé comment Dieu a utilisé Moïse et Aaron pour révéler la vérité présente au peuple des Israélites pour être délivré de la captivité. Nous avons vu comment Dieu leur a donné les 10 commandements. Il n'a pas fait d'une seule façon, d'un coup. Il l'a fait progressivement alors qu'ils étaient délivrés de la captivité. C'est pour nous la même chose. C'est progressif. Dieu révèle la présente vérité d'une lettre à une autre alors que Ron prépare ses lettres semaine après semaine. C'est comme ça que Dieu nous révèle la vérité. Je vais finir aujourd'hui en lisant des extraits de la lettre de Ron. Et il dit que Dieu ne nous donne pas toute la vérité d'un seul coup. On a ça alors qu'il a utilisé Moïse et Aaron. C'est donné progressivement à travers la présente vérité, alors qu'ils apprenaient. Et Ron dit, ne nous donne pas la vérité d'un seul coup, et nous n'avons pas la capacité de toute la recevoir entière. Nous continuerons continuellement, grandirons. Dieu a révélé la vérité à l'humanité depuis 6000 ans d'une manière progressive. Alors que son plan se révèle, c'est la même chose aujourd'hui. Ça a été souvent indiqué au cours des années passées, ça a été engravé en nous profondément. En soi-même, c'est une vérité très importante et qui va travailler en vous pour construire une foi plus forte. Nous sommes jugés par ce que nous voyons et ce que nous comprenons à un moment du temps. Abraham et Sarah ont été jugés par ce que Dieu leur avait donné jusqu'à ce moment-là. Ils n'avaient pas les enseignements de Christ et des disciples. Ils n'avaient pas ce qui a été donné plus tard, a été donné par les apôtres plus tard. Ils n'avaient pas ce qui est écrit dans le livre des rois ou des psaumes et des proverbes, ce que les prophètes avaient enregistré. Abraham et Sarah ont été jugés par leur désir de vivre par un mode de vie qui était de base élémentaire, qui était établi dans deux types de relations dans la vie, l'amour envers Dieu et l'amour envers les autres. Et ils ont cherché à vivre par la loi que Dieu leur avait donnée. C'était la chose la plus importante, chose de la vie spirituelle envers Dieu. Si les lois de Dieu à propos de d'avoir une relation propre envers Dieu et envers les autres ne sont pas ce qui régularise ou qui règle nos relations, toute la connaissance et toutes les révélations, les prophéties n'auront aucun sens pour nous. Et il donne une référence au 1 Corinthiens, verset 13. Bien que Abraham et Sarah n'avaient pas la moindre idée de toute la quantité de connaissances que nous avons aujourd'hui, du plan et du dessein de Dieu pour l'humanité que nous avons aujourd'hui, ils seront eux-mêmes très très grands dans le royaume de Dieu. Cette connaissance en elle-même devrait nous attiser, nous motiver à traiter bien ceux qui nous entourent. Le désir de Dieu en nous est de nous transformer notre pensée pour que nous puissions devenir comme Elohim. Il veut former en nous un jugement juste et droit.
The mind becoming capable of formulating right conclusions.
Pour que la pensée devienne capable de former des bonnes conclusions
and making righteous decisions.
Et faire des décisions justes. Des décisions justes viennent en basant nos décisions sur la vérité que Dieu nous a donnée à un moment. Dans le temps. Donc Dieu nous éprouve et nous conduit par la façon dont il nous conduit à un moment précis du temps. Il y a différents exemples qui ont été donnés à l'Église du début. Un exemple important, c'est lorsque la révélation de Dieu que l'Église, que l'Évangile devait être prêché aux païens. C'était une vérité présente qui leur avait été donnée et ça leur a donné des problèmes. C'était nouveau pour eux, un grand changement pour eux. Ça a vraiment mis l'épreuve dans l'Église et des questions étaient soulevées. Comment Dieu conduisait son Église? Il y avait des doutes à cette époque. Et ça avait donc mis en évidence que chaque personne avait la capacité de juger ce que Dieu allait faire. De voir si ça allait être jugé justement et selon cette nouvelle vérité que Dieu avait révélée. Donc mes frères, alors que nous grandissons spirituellement, nous en venons à voir plus clairement les choses extraordinaires de notre vie que Dieu a placées, nous a données dans son appel. Nous en venons à comprendre que notre expérience au cours des 6000 ans passés a été extraordinaire. Et on devient de plus en plus passionné. On a été tellement béni de voir où est-ce que nous en sommes dans le temps de cette relation que nous avons depuis que nous avons été appelés. Nous sommes vraiment très impressionnés à propos de la richesse de la connaissance qui nous a été donnée à la fin de cet âge et que le plan de Dieu qui nous a donné avec toute la richesse de connaissance qui nous a été donnée, nous voyons de plus en plus clairement comment ce monde est dépravé et perverti et tordu tout autour de nous, dans la confusion qu'ils ont à propos de ce qui est Dieu, le Dieu de cet univers, et le processus par lequel nous changeons, nous recevons la conviction, la vérité, avec beaucoup plus d'amour et d'attention vers les autres, avec la compréhension et l'attention que nous développons au cours du temps. Ça n'est pas, c'est un réel miracle en réalité. Les expériences extraordinaires que nous avons reçues du Dieu qui existe de lui-même, habitant dans nous. Et parfois, ça peut commencer à être pris à la légère et pris de manière ordinaire. Et c'est une chose dangereuse.
On peut prendre que...
Et donc, ces choses peuvent être prises à la légère. Et ça peut arriver si une personne commence à oublier ce que Dieu a donné. Ils perdent l'aspect extraordinaire de leur appel. Comment Dieu leur a dit la vérité. Et en retournant dans le temps et en réfléchissant sur la façon dont Dieu a utilisé Moïse, en ces jours, ça nous ramène à ce temps aujourd'hui où comment Dieu a utilisé deux personnes à la fin de cet âge pour amener la vérité présente à nous sur qui la fin de cet âge est arrivée. Et nous regardons ces exemples aujourd'hui, comment Dieu a utilisé Moïse et Aaron pour conduire un peuple hors de la captivité. Et c'est la même chose à la fin de cet âge avec deux témoins de conduire l'Église de Dieu et vers le royaume de Dieu pour établir le royaume de Dieu sur cette terre, pour être prêt. Et nous nous attendons réellement à ce moment où cette chose sera accomplie et que le royaume de Dieu sera sur cette terre. Donc, mes frères, donc appliquons ce que nous avons vu, ce que nous avons appris, les exemples que nous avons entendus et appris à la fin de cet âge, que la fin de cet âge est venue.